Studio Tamani, voici les informations en français.
À Arabébé dans la région de Banyangara, la même heure partout au Mali. C'est l'heure de votre deuxième édition d'actualité nationale. Au sommaire à Banyangara, un enseignant a été assassiné ce week-end, ce qui porte à 3 le nombre d'enseignants tués au cours de ce mois par des hommes armés. Leurs camarades s'indignent de la recrudescence de ces actes. Plus de 47 000 personnes sont touchées par les dégâts de la pluie. C'est le bilan annoncé en Conseil des ministres extraordinaire du vendredi dernier. Les autorités ont déclaré l'état de catastrophe sur toute l'étendue du territoire pour y faire face. En sport, on va parler de l'Afro-Basket à Afrique du Sud 2024. Les moins de 18 ans du Mali connaissent désormais leurs adversaires. Les précisions dans un instant, une présentation de Moumine Sendebou. Sedundo assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au centre et au nord du pays, les enseignants sont en deuil. 3 enseignants ont perdu la vie entre les mains des terroristes au cours de ce mois d'août. Le dernier cas a été enregistré en fin de semaine à Banyangara, au centre du pays. Une situation qui a provoqué la colère et l'indignation au sein du corps enseignant. Mariam Koulibaly nous en dit plus.
C'est dimanche 25 août. Oumar Guindo, enseignant à Badiangara, a aussi été assassiné dans son champ d'arachide. Cette attaque a eu lieu juste à quelques mètres de la ville, non loin du camp de la brigade territoriale de Badiangara, selon des témoins. Il enseignait à l'école fondamentale Mamadou Tolosé de Badiangara. Avant cet acte, c'est 2 autres enseignants qui se faisaient ôter la vie. Il s'agit de Bokari Kissouk Bokoum, directeur d'école à Arabébé, et Ousmane Adao, aussi directeur d'école à Goundam Teskel. Ces enseignants qui relevaient du cap de Niafunke ont été enlevés le 15 août aux environs de 22h à Arabébé par des hommes armés non identifiés. Leurs corps ont été retrouvés le samedi 17 août. Le ministre de l'Éducation nationale a condamné avec vigueur ces actes odieux. Le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre a par ailleurs demandé aux autorités de mieux sécuriser les enseignants et inviter aussi les enseignants à préserver leur vie.
Ce 10e assassinat d'enseignants est qualifié d'acte odieux par ses collègues et des habitants de la région de Banyangara. Il demande aux autorités de redoubler d'efforts sur le plan sécuritaire. C'est là pour permettre à la population de vaguer librement à leurs besoins sans crainte. Écoutons cet habitant de la zone qui a reculé l'anonymat. Il est joint au téléphone par Aïssata Diarra.
Non, franchement, nous avons profondément été touchés par cet acte n'est pas odieux. Il s'agissait d'un enseignant alors en vacances qui était parti, n'est-ce pas, pour ses activités agricoles. Et de façon inattendue, et nous avons appris, n'est-ce pas, qu'il a été abattu. C'est un jeune enseignant qui a une jeune femme et qui a des petits-enfants. Nous savons que le problème n'est pas facile. L'État a toujours fait de son mieux, mais vraiment qu'il continue, n'est-ce pas, à mieux faire encore. Puisque nous sommes, n'est-ce pas, dans la partie centre du territoire, nous sommes en plein hivernage aussi, et beaucoup d'espaces demeurent, n'est-ce pas, sans être exploités. Et cela aussi est un véritable facteur, n'est-ce pas, qui contribue, n'est-ce pas, à l'insécurité alimentaire. Il faudrait que, n'est-ce pas, l'État nous rassure davantage que, n'est-ce pas, les gens peuvent vaquer à leurs affaires.
18h passées de 3 minutes, réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Le Danemark a annoncé la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, deux pays en transition. L'annonce a été faite ce lundi 26 août 2024 par le ministère danois des Affaires étrangères dans un communiqué. Copenhague évoque comme raison les coups d'état militaires dans ces deux pays. Autre sujet, du début de l'hivernage à la date du 22 août 2024, 122 cas d'inondations ont été enregistrés dans 17 régions et le district de Bamako. Ainsi, ces inondations ont touché 7077 ménages, soit 47 374 personnes. Ces informations ont été données vendredi dernier par un conseil des ministres extraordinaire. L'État malien a alors déclaré l'état de catastrophe nationale sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, apporter des réponses adéquates aux inondations. Issa Oumar Togola nous en dit plus.
Les autorités jugent que face à la situation, des mesures urgentes s'imposent. Parmi ces mesures prévues par le gouvernement, la sensibilisation sur les risques d'inondation, l'interdiction d'attribution de parcelles à usage d'habitation dans les zones d'inondation, le curage des collecteurs, caniveaux et des jonctions d'écoulement d'eau, la relecture des textes du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, entre autres. Selon le gouvernement, 4 milliards de francs CFA seront mobilisés par l'État pour faire face aux conséquences des inondations survenues à travers le pays. Ce montant devra aussi permettre de renforcer les stocks nationaux de sécurité alimentaire et apporter une assistance nécessaire aux ménages touchés par cette catastrophe. En outre, le gouvernement dit avoir activé le centre de coordination et de gestion des crises, ce qui aura permis d'apporter de l'assistance aux sinistrés et de la distribution de plus de 128 millions de francs CFA et des relogements de 903 ménages dans des écoles. Pour rappel, depuis le début de l'hivernage au 22 août 2024, les inondations ont fait 30 décès dans les régions, dont 5 à Bamako, selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.
Par ailleurs, 6 morts, 49 blessés, dont 7 évacués à Bamako, c'est le bilan d'un accident survenu ce week-end sur la route de Fana. D'après les informations locales, deux bus, l'un en provenance de Bamako et l'autre de Djouila, sont entrés en collision. L'excès de vitesse et l'entrée en troisième position seraient à l'origine de ce drame, précisent les mêmes sources. Cap à présent sur l'actualité sportive, dans laquelle nous allons parler du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique de basketball en hommes et dames de la Ligue africaine de football. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Mamadou Samassikou.
En Afro-Basket Dame, le Mali est logé dans le groupe B en compagnie du Maroc, de la Zambie et de l'Angola. Les Aigles, messieurs, eux, feront face à la Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal. C'est l'Afrique du Sud qui accueille cette compétition du 1er au 14 septembre 2024. À noter que lors de l'édition 2022 jouée à Madagascar, les Aigles ont terminé médaille de bronze. Les Dames ont en revanche remporté la finale devant l'Égypte. Elles seront donc en Afrique du Sud pour essayer de glaner leur 9e sacre de la catégorie. Par ailleurs, en football, Ligue des champions d'Afrique, le Djelba AC sera au rendez-vous pour le dernier tour préliminaire. Le Red Star de la Centrafrique qui devrait affronter hier l'équipe championne du Mali au compte du match retour du premier tour des préliminaires a signé forfait. Le prochain adversaire du Djelba sera le vainqueur du match entre Deportivo Mungomo de la Guinée équatoriale et ASCO Dakara du Togo.
Sur différentes plateformes digitales, il n'est pas rare de tomber sur des contenus en lien avec la crise qui traverse le pays. Souvent, la bonne information se trouve noyée par des propagandes, des contenus qui empirent la situation selon des experts. L'impact de la propagande, c'est le sujet de notre rubrique Vérifiant de cette semaine et c'est avec Draman Maïga.
La propagande, la désinformation et les fausses nouvelles peuvent avoir des conséquences graves pour la société. Ces phénomènes sont souvent liés et la propagande polarise l'opinion publique. En plus de diviser les populations, elle encourage des idées extrêmes, ce qui attise sans doute la haine. Suite aux récents événements au nord du pays, précisément à Tinzawaten, plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Les internautes, en partageant ces contenus, amplifie consciemment ou inconsciemment la psychose, ce qui profite au terrorisme. D'un autre côté, des chroniqueurs ou vlogueurs se permettent de commenter certaines informations. Des fois, ils donnent même des informations non factuelles. Ils sont devenus des sources de désinformation, indique Alexis Calambri, directeur de publication des Mali Tribune. Les journalistes soulignent que la plupart de ces personnes ne savent pas quoi dire ou et quand donner certains aspects de l'information. En voulant bien faire, ils font le contraire, conclut-il. Alors, pour ne pas attiser le feu, restons factuels et évitons le partage des images sensibles, mais aussi des informations peu fiables.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali Urtel, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans la rubrique Zoom sur on braque aujourd'hui nos projecteurs sur les personnes qui n'acceptent pas leur statut social. Elles ont toujours honte de se montrer en public telles qu'elles sont. C'est du moins ce que nous dit Mariam Meyer.
Ces personnes, nous pourrions les appeler les complexées. Elles sont toujours insatisfaites de ce qu'elles ont. Ce cas s'applique à des hommes comme à des femmes. Moussa est un jeune homme beau et gentil, mais qui a honte de son rang social. Voici quelqu'un qui n'aime pas là où il vit. Il aime toujours se vanter. Eh bien, moi, je vis à la cité du Niger. Ah, vous savez pas, mon papa a construit une nouvelle maison à la CI. Quand ses amis veulent lui rendre visite, il a toujours des prétextes. Ah, Tchédjo, ma famille a voyagé pour l'étranger. Il est même capable d'amener ses amis dans des familles nanties de ses connaissances. Le prototype de Moussa, c'est Mimi. À la voir, on croirait qu'on a affaire à une fille de 1000. milliardaires. Elles ne se promènent qu'avec des gosses de riches, toujours à les imiter et essayer d'avoir ce qu'elles possèdent. Chers amis, mon papa est boss, ma maman est riche. Ne définissent pas ce que nous sommes et deviendrons réellement. Il faut toujours compter sur ses propres efforts, comme le dit une sagesse africaine.
C'était bien sûr l'Arabica Zoom sur signé Maria Maïga. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75. Pardon. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site web, page ou notre page Facebook en cliquant sur l'icône WhatsApp. À présent, nous recevons Imrana Kilumaïga pour nous parler du thème du grand dialogue de ce soir.
Bonsoir Moumine.
Bonsoir Imrana, quel est le sujet que vous évoquez?
Situation des écoles catholiques, de l'accalmie pour l'année scolaire prochaine. On en parle dans ce grand dialogue avec Louis Gara, secrétaire permanent de la Direction nationale de l'enseignement catholique, et Abel Touré, secrétaire administratif de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali. Docteur Seydou Kanté, spécialiste en droit de travail et de la sécurité sociale, et Madi Dambélé, secrétaire aux revendications des syndicats de l'enseignement privé catholique.
Merci Mirana et bonne présentation. Alors chers auditeurs, c'est ce qui boucle ce journal présenté par Moumine Senebou avec la collaboration technique de Sedundao. L'ensemble de la rédaction par ma voix vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter ce journal ainsi que le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37321. C'est gratuit mais il faut avoir au moins 100 francs de crédit sur son compte. Et ne décrochez pas dans un instant le magazine. Le travail d'un huissier de justice consiste à faire exécuter les décisions de justice et les actes ou titres exécutoires selon les textes. Il permet ainsi, par exemple, au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance en vertu de la loi ou d'une décision de justice. Cependant, cette tâche est très souvent mal comprise par la population. Pour un meilleur dénouement des affaires, des juristes proposent en amont de la coopération avant tout état de fait. Quel est le rôle d'un huissier? D'où viennent les incompréhensions avec la population? Des éléments de réponse dans ce magazine « Gouvernance et citoyenneté » réalisé par Adama Amadou Haïdara.
Dans notre société, il n'est pas rare de voir des gens qui ont déjà eu une confrontation avec des huissiers. Très souvent, ce sont des cas de créance ou de location. Et ces affaires finissent généralement avec des prises de tête. C'est ce qu'expliquent ici ces usagers.
Le mois de juillet, vers le 28, les huissiers sont venus et ils m'ont réclamé le mois d'août. D'ici le 5 août, moi, je dois sortir. Il y a deux messieurs d'entre eux qui m'ont dit que si c'est ça, de payer quand je vais sortir, ils vont me rembourser. Je dis non. Leur patron qui est parmi eux, lui dit qu'ils vont prendre ma télé et puis quelques trucs de la maison. Comme ça, moi, je vais venir les voir au bureau pour donner de l'argent. C'est là que j'ai dit non.
À cause de deux mois d'impayés, étant donné que les magistrats même étaient en grève, j'ai reçu une formation de vider les livres. Le gars est venu me le remettre accompagné d'un policier et puis dans un délai d'une semaine.
Un huissier a des critères à remplir, y compris l'assurance qu'il doit donner à son vis-à-vis pour le bon déroulement de son travail. Selon le juriste Ibrahim Ben Mamata Touré, la coopération de la personne interpellée est également souhaitée.
Quand un huissier vient voir un locataire ou un créancier, les droits de ce dernier sont d'abord de coopérer avec l'huissier. Mais avant cela, c'est à l'huissier de rassurer la personne du bien fondé de sa mission. L'huissier travaille toujours sur des bases légales, une ordonnance ou une décision de justice quand il s'agit d'expulsion d'une personne ou bien de fermeture, etc. etc.
Cependant, lorsque l'huissier va en recouvrement de créance, il doit au préalable faire une sommation. C'est du moins ce qu'indique Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Un délai de rigueur pour que la personne puisse honorer son engagement. Le délai varie de 72 heures à 8 jours. Donc après sommation, la mise en demeure peut être pratiquée. L'huissier peut procéder après que la personne qui l'a commis ait obtenu du tribunal une ordonnance de saisie conservatoire. C'est une décision qui permet au créancier de saisir des biens corporels immobiliers ou même de saisir les comptes bancaires de son débiteur.
Dans tout métier, il y a son mauvais. Maître Diallo Mahfouz Al-Hader, huissier commissaire de justice, met en garde contre toute tentative de manipulation, même s'il reconnaît que certains clercs avec qui les huissiers collaborent exagèrent souvent. Ces derniers sont des envoyés des huissiers.
Donc l'huissier qui fait l'expulsion, il n'a pas fait n'importe quoi, il a fait du droit, mais dur. Mais j'avoue que certains clercs exagèrent. Et dans notre dos, il y a des clercs mercenaires qui sont dans la rue, qui n'ont même pas de camion d'attache. Mais ce n'est pas tous les clercs. D'abord, le clerc ayant prêté serment est supposé avoir sa carte professionnelle. Bon, si on va maintenant dans le boucan, tu donnes ton argent, ça n'engage que tu, ça n'engage pas l'huissier. Parce qu'en droit, la responsabilité pénale est individuelle.
Notons que pour mandater un huissier ou commissaire de justice, en vue d'une démarche à l'amiable, il faut lui adresser un dossier contenant l'ensemble des pièces qui justifient votre créance et notamment les documents par lesquels le débiteur reconnaît sa dette.